des écrivains, des penseurs du passé dont les livres parlent encore au présent. Le book club de la Grande Table se poursuit maintenant dans la sphère des idées. Relire les morts pour comprendre les vivants. Une émission en partenariat avec Slate.fr et son rédacteur en chef, Christophe Caron. Bonjour.
Bonjour.
Rejoint par Anastasia Colosimo, professeure de théologie politique à Sciences Po Paris. Chaque jour, elle vous a recommandé ses lectures philosophiques dans le journal de la philo au nouveau chemin de la connaissance sur France Culture. Bonjour Anastasia.
Bonjour.
Et à vos côtés, l'agitateur d'idées, François Angelier, spécialiste de Bernanos, producteur sur France Culture de Mauvais Genre, très mauvais genre, qui a fêté ses 20 ans l'an passé. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ben ça va, écoutez,
parce qu'on attaque avec vous. Bah oui, de même. François Angelier, vous êtes venu avec le dernier manuscrit depuis, édité de Georges Bernanos, votre chouchou, votre auteur fétiche, La France contre les robots. Et pourquoi?
Eh bien, parce que si on cherche qu'un mort, un grand mort qui peut beaucoup pour les vivants, je pense que Bernanos correspond parfaitement à ce type. C'est quelqu'un dont la personnalité ne cesse d'être d'actualité et même à la limite de nous précéder dans le cataclysme qui menace. C'est quelqu'un qui disait aller vite, mais aller où? Et toute son œuvre d'essayiste est une méditation sur, l'apocalypse qui vient. C'est quelqu'un qui a compris en 1919, après la Première Guerre mondiale, que grosso modo on allait dans le mur, que de tout cela, même la paix, même la, une certaine opulence, une certaine prospérité retrouvée, ne changeait rien au fait que la civilisation contemporaine était promise à la crise et à la tragédie. Donc il s'en est expliqué dans plusieurs ouvrages, La Grande Peur des Bien-Pensants, Les Grands Cimetières sous la Lune, et puis surtout dans les La France contre les robots, qui est le dernier ouvrage qu'il a publié au Brésil, où il est allé s'exiler jusqu'en 1938 à 45, et où il montre qu'en définitive, pour lui, la victoire de 45, et puis ceux qui viendraient après, ne changeraient rien à cette espèce de destinée sombre, tragique, de mise en coupe réglée de la planète par l'univers des impérialismes policiers, de la folie technicienne. C'est quelqu'un qui avait toujours à peu près un à deux coups d'avance. C'est-à-dire, il n'a jamais cru à la paix, il n'a jamais cru à la guerre, il a cru simplement une sorte d'apocalypse future.
Le livre sort en 47. C'est une critique du progrès, c'est une critique de la société industrielle, c'est le procès du machinisme. Pourquoi ça vous parle aujourd'hui?
Ben parce que en lisant Bernanos, j'ai l'impression de lire un chroniqueur qui s'exprimerait le matin même. C'est quelqu'un qui travaille, qui n'était pas un expert, il n'était pas un universitaire. Il travaillait, il a écrit tout cela quand il était au Brésil ou en Espagne, enfin à Majorque, dans les cafés, en s'appuyant uniquement sur la lecture, des témoignages, mais de la presse, et vaguement des dépêches d'agence, avec une espèce d'intuition absolument extraordinaire. Il a réussi à voir que, grosso modo, la machine allait non plus être au service de l'homme, mais l'homme au service de la machine. L'homme ne serait plus non plus une matière, mais un matériau pour une sorte d'envahissement de la puissance technicienne. Alors évidemment, il était en phase avec pas mal de gens des années 30, mais il donnait une résonance, une intensité, de par en plus son statut d'écrivain catholique, une intensité à son message qui allait bien au-delà de ce que pouvait être une simple critique, comme on le fait des Duhamel et autres à l'époque. Et donc c'est quelqu'un qui était déjà avec les Günther Anders, les Jacques Ellul, les Baudrillard. Il y a toute une espèce de réflexion sur le simulacre et la parodie chez Bernanos qui est déjà du Baudrillard en germe. Et c'est ça qui est très étonnant chez lui, c'est qu'il a toujours, je vous le répète, deux ou trois coups d'avance.
Il va falloir vous arrêter parce que vous êtes en train de préparer une biographie de Georges Bernanos. Vous aurez le temps, l'espace, j'espère, de nous raconter plus encore, et de vous recevoir à cette occasion, l'auteur du journée d'un curé de campagne qui s'adresse donc dans ce livre que vous nous recommandez aujourd'hui, François Angelier, La France contre les robots, à la France immortelle qui l'oppose à la France périssable. Christophe Caron, on en vient à vous et à votre premier choix. Pourquoi Platon? Parce que vous, quand on vous dit classique, ancien, auteur mort qui parle aux vivants, vous remontez très loin.
Alors c'était mon second choix, mais on va commencer par
le deuxième choix.
Alors, pour tous ceux qui ont oublié, comme moi, ou qui ont un peu séché leur cours de philo, j'ai une spécialiste à côté. J'ai beaucoup séché mes cours de philo. Je voulais juste revenir sur la République de Platon et sur un passage en particulier sur l'allégorie de la caverne, qui illustre pas mal un phénomène, le phénomène des fake news qu'on a beaucoup vu ces derniers temps avec le phénomène des gilets jaunes et avec l'expression de l'expression des gilets jaunes sur Facebook. En fait, le mythe de la caverne, bon, je le rappelle, mais tout le monde le connaît ici, on a un auditoire qui est plutôt au fait de tout ça, ce sont des hommes enchaînés dans une caverne qui ne voient pas le soleil et qui voient leurs ombres seulement projetées sur le fond de cette caverne et qui ne voient pas la réalité, mais une version altérée de cette réalité. Et ces gens-là ne sortent pas de leur caverne et donc ont du mal capter de manière intelligible le monde qui les entoure, ils le captent de manière sensible. Et on est là dans une allégorie des centaines d'années avant de la bulle de filtre de Facebook, avec des gens qui ne réfléchissent plus en essayant de savoir, mais en essayant de trouver des opinions qui les confortent sur du ressenti, qui ont du mal à sortir de ce qu'ils savent et de ce qui les conforte. Et je trouvais qu'il était intéressant de se repenser à cette allégorie-là pour revoir à quel point nous-mêmes, toute classe sociale, parce que ça ne touche pas que les gens mal ou peu éduqués, on avait du mal parfois à se sortir de nos préjugés et de nos zones de confort.
Alors, le livre 7 de la République, Anastasia Colosimo, vous avez
mot à dire. Oui, bien sûr, moi je recommande de lire La République dans son entier, parce que c'est quand même l'un des plus grands ouvrages qu'on ait jamais fait en philosophie politique. Et il y a un tas de choses d'ailleurs qu'on trouve, évidemment il y a l'allégorie de la caverne, mais sur aussi la critique de la démocratie, les limites de la démocratie, la manière dont le peuple peut se méprendre, mais aussi peut-être abandonner. Enfin, à mon avis, il y a beaucoup d'autres choses très très actuelles dans La République, mais c'est le cas de toutes les grandes œuvres philosophiques.
On va écouter quelques mots de Nougaro chantés. Bien sûr, et ça nous ramènera peut-être pas très loin de mai 68.
Mais Paris, ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendit et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume, mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume et piochant l'évasion d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps. Mais Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre.
Mais Paris de Claude Nougaro. Tout de suite, c'est Anastasia Colosimo qui nous fait sa première recommandation dans le cadre de ce book club de la Grande Table, book club des idées, avec Tocqueville. Pour commencer.
Alors d'abord avec Tocqueville, avec Les Souvenirs, qui n'est pas l'ouvrage le plus connu de Tocqueville, mais qui est très intéressant parce que on fait beaucoup de comparaisons, souvent hasardeuses ces temps-ci, entre les Gilets jaunes, la Révolution française de 1789. En fait, en relisant Les Souvenirs de Tocqueville, on a plutôt envie de penser que la bonne comparaison, c'est la Révolution de 1848. Et en lisant Tocqueville surtout, on se rend compte des similitudes de ce qui existait déjà à l'époque, c'est-à-dire une certaine rupture de la bourgeoisie dont Tocqueville parle, d'un pouvoir qui s'appuie beaucoup sur la bourgeoisie et donc qui oublie un peu l'intérêt général, de la trahison aussi de cette bourgeoisie sur laquelle on s'appuie et qui pourtant aime médire. Et donc, je pense que c'est l'occasion de redécouvrir ce texte qui par ailleurs est aussi... Vous voyez, une grande balade historique, puisque on reprend aussi tout un pan de l'histoire de France.
François Angelier.
Oui, non, la trahison de la bourgeoisie, c'est sûr que je suis en phase avec Bernanos, qui considérait, lui, que 89 était une révolution monarchique et populaire, et que la révolution bourgeoise, c'était 93, et qu'en définitive, tout s'est perdu là, et que, bon, il y avait une chance encore en 89. Il y a des lectures comme ça qui sont et curieuse de la Révolution.
Alors tout à l'heure, Auriane Delacroix nous recommandait l'éducation sentimentale. On se balade d'une révolution à l'autre et on se rapproche aussi de cette question de peuple, de prise de parole. Une autre recommandation, Anastasia Colosimo, un autre
oui, alors là, c'est peut-être...
livre classique qu'il nous faut lire ou relire pour ceux qui ont déjà tout lu.
Si pour ceux qui ont déjà tout lu, mais c'est surtout que c'est très utile en ces temps-ci. Alors peut-être pour là, une autre partie de la population, celle qui dirige, Le Prince de Machiavel, évidemment, classique absolu, livre magnifique dont on peut pas d'ailleurs tout à fait dire que c'est un livre de philosophie, c'est un manuel de stratégie. Donc ça se lit comme un manuel et on applique comme un manuel. Et qu'est-ce que nous dit Machiavel ? Machiavel nous dit que le prince, évidemment, doit être stratège, et pour ça il doit jouer en fait entre deux passions différentes, la passion du peuple et la passion des élites. C'est lui l'équilibre entre les deux, mais Machiavel le rappelle, le prince a plutôt quand même intérêt à satisfaire le peuple, parce que dans ce cas les élites suivent, que l'inverse, parce que sinon le peuple se révolte.
Christophe Caron, Machiavel. Vous l'avez lu,
je ne le rate pas, hein, le prince. Je l'ai lu il y a très longtemps, et effectivement, une question d'équilibre et une question d'écoute surtout. Le problème, alors je suis moins dans l'idée que dans la politique la directe, c'est qu'il faudrait qu'il le lise, Emmanuel Macron le lise pour comprendre qu'il faut écouter et parler aux gens et savoir comment leur parler, parce que c'est le grand défaut de cette présidence, c'est qu'on a un président qui ne sait pas parler, il commence à le faire maintenant, mais qui ne sait pas parler aux gens qui ne lui ressemblent pas.
France Culture avec les invités de la grande table des idées aujourd'hui, Christophe Caron, Anastasia Colosimo et François Angelier. Il est 13h08.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Et les membres de l'équipe de la Grande Table avaient aussi envie de vous recommander leurs livres fétiches ou ceux qui sont sortis récemment et qui ont particulièrement retenu leur attention, dont on n'a pas pu peut-être vous parler directement jour après jour dans cette Grande Table. Henri Leblanc vient de nous rejoindre, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes venu avec quoi ?
Je suis venu avec un gros livre, en fait deux tomes.
Alors là, tout le monde lève les sourcils parce que c'est effectivement massif et imposant, en noir et blanc.
Un coffret, une intégrale, celle des écrits complets d'André Bazin, le père de la critique cinématographique. Pour les 60 ans de sa mort, les éditions Macula ont réuni 2700 articles écrits entre 42 et 58 dans Le Parisien Libéré, Radio Cinéma Télévision, France Observateur et les Cahiers du Cinéma, bien sûr, dont André Bazin était l'un des fondateurs en 51, découvreur du néoréalisme italien, théoricien. Il a été peu à peu éclipsé par l'aura des jeunes turcs, le quintet de la nouvelle vague, Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette et Romère. Bazin ne verra que les prémices de la nouvelle vague. Il meurt à 40 ans, en 1958, le premier jour de tournage des 400 coups de Truffaut, entre guillemets, son fils spirituel. À noter, donc, dans ce beau coffret, en plus des articles, l'appareil critique très éclairant d'Hervé Joubert-Laurencin, prof de cinéma à Paris-Nanterre et spécialiste de Bazin et de Pasolini.
Est-ce qu'on peut, ou pourquoi on devrait lire ou relire ces articles de Bazin qu'on a peut-être vu passer pour certains dans les archives ou au moment où ils étaient publiés ? Pourquoi lire cet ensemble d'André Bazin pour vous ? Qu'est-ce que ça nous dit du monde aujourd'hui ?
Ces textes permettent de mieux comprendre notre monde saturé d'images dans une très belle langue. Bazin, qui a notamment, avant Serge Danet, exploré dès l'apparition de la télé ses possibilités esthétiques, il nous permet de mettre en perspective et décrypter les images dont on est abreuvé sur tous les supports possibles.
Donc c'est un livre sans photo ?
C'est un livre avec une iconographie assez limitée, mais en fait, Bazin permet de faire naître des images. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire juste un court extrait. En fait, c'est un des articles qui est une sorte de déambulation sur la Croisette à Cannes en 47, qui s'intitule « Psychanalyse de la plage ». Il dit « C'est alors que le critique comprit que le cinéma était un rêve ». Non pas, comme on le laisse parfois entendre, à cause de la nature illusoire de l'image cinématographique, non pas même parce que le spectateur s'y trouve comme plongé dans une rêverie passive, encore moins parce qu'il autorise tout le fantastique du rêve, mais bien plus profondément, au sens strictement freudien, parce qu'il ne fait pas autre chose que de dramatiser la réalisation d'un désir. C'est-à-dire qu'il y a une langue en plus.
se tourner vers le cinéma, François Angelier.
Oui, non, mais c'est d'abord
aujourd'hui aussi.
Bravo à Macula d'avoir mené à bien un travail pareil. Tant que ce genre de livres seront là, on pourra pas trop désespérer de l'édition. Donc ça, c'est déjà formidable. Et puis ce que vous venez de lire me fait penser à Roland Barthes. Là aussi, c'est quelqu'un qui avait déjà une analyse de la réalité. On est déjà dans les mythologies de Roland Barthes. Alors moi, je serais très curieux de voir. J'ai pas feuilleté, ni bien évidemment pas lu ces deux importants volumes sombres, mais je serais curieux de voir ce qu'il dit, notamment du cinéma de genre, qui est celui que je fréquente le plus volontiers. Et ce qu'il dit du polar, de la science-fiction, du fantastique, est-ce qu'il parle de James Whale, est-ce qu'il parle de Todd Browning, est-ce qu'il parle, je sais pas, de Howard Hawks.
Il parle pas mal du western.
Ah, justement,
il met en avant le lyrisme dans le western en expliquant qu'un plan se déploie et qu'il faut revoir du western.
Et c'est de Bazin que ce texte extraordinaire sur Humphrey Bogart, où il dit que le visage de Bogart, c'est la mort à l'œuvre, je crois.
Oui, oui, il écrit des super beaux textes sur Bogart et aussi sur Clark Gable et le désir au cinéma.
Il écrivait dans Le Parisien Libéré.
Et oui.
Heureuse époque où, quand on ouvrait Le Parisien Libéré, on tombait sur André Bazin. Oh, joie.
Puis France Observateur et les cahiers du cinéma, les écrits complets d'André Bazin. C'est donc aux éditions Macula. On peut aussi lire par bribes, par fragments, ces articles qui sont aujourd'hui republiés, Henri Leblanc, tout en regardant les films dont il parle. Comme ça, on est à l'école d'André Bazin, à cette école du cinéma. Musique avec Dusty Springfield, c'est spécialement pour vous, François Angelier, choisi par Milena Hellig. Et le titre s'appelle Spooky. Spooky, effrayant, je crois, non?
Yes.
Angelier, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'effrayant à lire ou relire aujourd'hui, Lovecraft ou Dracula? Ça fait
mais les fantastiqueurs sont d'actualité,
ouais,
parce que c'est un univers qui pose en permanence le problème de l'identité, avec la question du double, avec la question du revenant, avec la question du spectre, l'identité, la question du corps. Et donc, je ne saurais que conseiller la lecture de la littérature fantastique, et surtout en 2019, puisqu'on a une série d'événements importants. D'abord, les éditions ActuSF vont nous donner enfin l'énorme biographie de Lovecraft, J.T. Joshi. 2000 pages où on se connaît à peu près minute par minute la vie du solitaire de Providence. Donc il n'est pas si solitaire que ça, puisqu'on peut reconstituer sa vie de cette manière. Il y a bien sûr Dracula, sort en Pléiade le 19 avril 2019. Après Frankenstein, c'est Dracula. Alain Morvan est à la manœuvre. Et puis c'est une année en off. Et de 1809-1849, ce sera une année Edgar Poe. Donc grande année, on peut revisiter tout le fantastique anglo-saxon avec ses trois maîtres fondamentaux. Et justement aller à la rencontre de toutes les thématiques qu'il nous propose, que ce soit la terreur cosmique ou la frayeur psychologique, le double, les horreurs spéculaires, l'abîme, la peur, l'angoisse.
Et on est en plein dedans.
Hein?
Et on est en plein dedans.
Et on est en plein dedans, je veux dire. On est véritablement de plus en plus confronté à ces thématiques.
Alors, côté science-fiction et anticipation, Christophe Caron est aussi arrivé avec sa recommandation, l'un des romans d'un écrivain britannique un peu moins connu, mort il y a 10 ans, un peu moins connu peut-être de nous tous, mais pas de nos auditeurs, James Graham Ballard, connu notamment pour sa trilogie du béton. Juste avant de vous laisser la parole, Christophe Caron, pour François Angelier, qui aurait rêvé le rencontrer, rêvé l'interviewer. On va remuer quelques instants. C'est Spooky, le couteau dans la plaie.
Everybody who was in the camp Tous les gens qui vivaient dans le camp savaient que leur vie avait été sauvée par les bombes atomiques. On a vu cette puissance américaine avec cette force aérienne énorme. Donc ces bombardiers en haute altitude, on considérait la marine américaine comme une grande puissance aussi. Et on comprenait bien que le système politique de l'avenir serait dominé par les forces politiques puissantes avec un armement nucléaire. Et du reste, c'est le cas. Et il y a cette notion selon laquelle l'individu n'a que très peu de pouvoir en lui-même et il se trouve à la merci de ces grandes puissances politiques. Cette notion était tout à fait ressentie par nous autres, c'était évident dans les années 50. La Russie de Staline, l'Amérique de l'époque, le commandement aérien stratégique, la course aux missiles, suivi par la course à l'espace. Tout cela, ça laissait tout le monde, tous les individus, très vulnérables.
Et c'était donc la voix de Ballard. Désolé François, il était à tout arrive en 2006, hein, sur France Culture. Voilà. Christophe Caron.
Oui, juste pour recontextualiser l'extrait, Ballard naît en 1930, il grandit à Shanghai et il est chassé de Shanghai après l'invasion de la Chine par les Japonais. Il se retrouve interné dans un camp pour civils jusqu'en 42 et il rejoindra l'Angleterre en 46, si je ne me trompe pas, à 16 ans. Et cet épisode-là va le marquer profondément et marquera toute son œuvre de par le passage par le camp et surtout par la découverte assez tardive de l'Angleterre qui est en complet décalage avec ce qu'il a vécu quand il y arrive. Voilà. Alors Ballard, il est assez prolifique. Il a dépeint une modernité dans toute sa noirceur, dans toute son angoisse. C'est moins un auteur de science-fiction qu'un auteur d'anticipation. Et il nous a livré pas mal de dystopies. Il a anticipé avec Sécheresse et d'autres le réchauffement climatique et les changements climatiques que nous vivons actuellement. Mais le livre, moi, sur lequel je voulais m'arrêter pour cette émission, c'est IGH, immeuble de grande hauteur. IGH, c'est quoi? C'est l'histoire de trois tours, d'une tour en particulier sur ces trois tours, d'une quarantaine d'étages, de 1000 appartements. Cette tour est divisée en étages et cette hiérarchie d'étages correspond à la hiérarchie sociale au sein de la tour. C'est-à-dire que plus on est pauvre, plus on vit en bas et plus on est riche, plus on vit haut. Alors quand je dis pauvre, ce sont tous des gens aisés. Les habitants des étages les inférieurs sont des stewards, des hôtesses de l'air, sont des gens plutôt insérés, qui vivent en autarcie. Le modèle, c'est un peu la cité radieuse du Corbusier. Donc il y a des appartements et au dixième étage, il y a une sorte de centre commercial avec une piscine et des commerces. Un jour, panne d'électricité, prise de tête entre les voisins autour de la piscine, et là, l'étincelle fait que tout se dérègle, et ces gens qui vivaient en harmonie commencent à se battre les uns les autres, et on passe de personnes civilisées à des hordes de barbares qui violent, pillent, tuent, et finissent par presque vivre dans une sorte de post-apocalypse qui n'existe que dans la tour, puisque autour de ça, tout le monde vit bien et normalement. Et on voit dans ce roman comment, en fait, dès qu'il n'y a plus d'éthique, de morale ou de vivre ensemble, tout peut très vite se déliter. Tout ça sous le regard du propriétaire et concepteur des lieux qui vit au dernier étage et qui laisse les événements se dérouler et qui prend même un certain plaisir à voir comme ça les gens s'entretuent dans les étages.
On ne regardera plus nos voisins de la même manière à partir de maintenant, c'est ça?
Non, c'est un peu. En fait, on se rend compte que tout va bien et il suffit d'une envie, d'une tension, d'une dissension pour que tout bascule assez vite. Et quand il n'y a pas justement d'organes de contrôle ou en tout cas d'organes de de conciliation, tout peut très, très vite mal partir.
Et IGH est le troisième roman après Crash et L'île de béton de cette trilogie du béton, François Angelier, Ballard.
Ah bah Ballard, c'est la ligne B, vous savez, Blois, Bernanos, Ballard, Burroughs. Vous avez là, et puis après, bienvenue ami au pays de la catastrophe. Oui, non, c'est absolument considérable. C'est quelqu'un qui a été effectivement traumatisé par toute la période japonaise de sa vie, et notamment le pillage et des concessions internationales de Shanghai, les sévices atroces de l'armée japonaise, un peu comme Bernanos et la guerre d'Espagne. Et là, il y a une espèce de traumatisme originaire qui, après, il va, d'une certaine façon, nourrir avec l'Angleterre qui est censée être celle de l'après-guerre, enfin, qui renaît après le Blitz et tout ça. Mais, justement, là aussi, sans être dupe de rien et être toujours avec un sens aigu, comme ça, du prophétisme et mettre en crise et en cause la société de consommation et la société du plein confort.
La société du confort et surtout le manque de prise de conscience du soi et des autres. Juste un petit passage de c'est le troisième chapitre de IGH. Je vous lis. Un nouveau type social allait naître dans la tour, une personnalité nouvelle, plus détachée, peu accessible à l'émotion, imperméable aux pressions psychologiques de la vie parcellaire, n'éprouvant pas un grand besoin d'intimité, une machine d'une espèce perfectionnée qui tournerait fort bien dans cette atmosphère neutre, l'habitant satisfait de ne rien faire sinon rester assis dans son appartement trop coûteux, regarder la télévision avec le son baissé et attendre que le voisin fasse un faux pas.
Merci Christophe Caron. Henri Leblanc.
Oui, je voulais juste dire qu'en fait, Ballard, à mon avis, c'est aussi quelqu'un qui a inventé une sorte d'érotisme de la matière. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'érotisme froid chez lui, qu'on retrouve dans Crash et aussi dans la trilogie du béton. C'est-à-dire que un objet peut devenir érotique du fait de sa forme et aussi du contact. Voilà.
Érotisme, je me tourne vers vous, Maya Neskovic, je sais pas, parce que c'était votre tour tout simplement.
Pas aujourd'hui, en tout cas, c'est clair.
La grande table des idées qui a donc réuni son book club avec les programmateurs de l'émission qui font des passages et viennent aussi vous recommander leur lecture. Vous avez choisi pour nous, Maya Neskovic, Éloge de l'oisiveté.
Oui, parce que je voulais pas me fouler trop non plus, hein, c'est lendemain de, enfin, veille de fête, pardon. Oui, c'est l'éloge de l'oisiveté, c'est un tout petit texte de Bertrand Russell, le philosophe et mathématicien, qui a été publié en 1932, un petit texte dans lequel il fait un sort à l'idée communément admise que le travail est une vertu alors que l'oisiveté serait la mère de tous les vices. Et pour Russell, il s'agit là d'un préjugé moral, une belle grosse arnaque entretenue par des classes privilégiées qui estiment que l'absence d'activité conduirait la plupart des hommes, et surtout les pauvres, à la dépravation et par conséquent qu'il est impératif de les faire bosser un maximum. Or, pour Russell, il existe deux sortes de travail. Le premier, nous dit-il, consiste à déplacer une certaine dose de matière à la surface de la Terre, le second à dire à quelqu'un d'autre de le faire. Et Russell démontre que si tout le monde s'y mettait sérieusement, 4 heures de travail par jour suffiraient à faire vivre toute la population dans un confort suffisant, tandis que le reste du temps serait consacré au loisir, à l'oisiveté. Russell nous dit « Les méthodes de production modernes nous ont donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans l'aisance et la sécurité. Nous avons choisi à la place le surmenage pour les uns et la misère pour les autres. En cela, nous nous sommes montrés bien bêtes, mais il n'y a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise indéfiniment. » Mais attention, si avec Russell je voudrais défendre l'oisiveté, ce n'est pas parce que je suis totalement épuisée et au bout du rouleau.
Pas du tout.
C'est pour des raisons beaucoup plus nobles que détaille Russell. Les hommes et les femmes ordinaires deviendront plus enclins à la bienveillance qu'à la persécution et à la suspicion. Le goût pour la guerre disparaîtra en partie pour la raison susdite, mais aussi parce qu'elle exigera de tous un travail long et acharné. La bonté est de toutes les qualités morales, celle dont le monde a le plus besoin. Or, la bonté est le produit de l'aisance et de la sécurité, non d'une vie de galérien. Merci et très bonnes vacances à tous.
C'était donc l'éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell, philosophe, mathématicien, lu par Anastasia Colosimo aussi, ou pointe encore.
Non, pas encore.
On a le droit de pas avoir tout lu et de repartir
non,
avec quelque chose.
Non, bien sûr, pas encore. Mais Aristote en parle de ça. C'est la vie contemplative. Oui. C'est-à-dire l'invention du travail comme valeur absolue d'une société, c'est très tardif. Ça vient avec la modernité. Avant ça, c'était très, très, très mauvais genre de travailler. C'était très mal perçu.
Et on avance crescendo vers un peu plus de légèreté après l'oisiveté de Maya Neskovic. Remettre un peu de poésie dans ce monde qui en manque cruellement. Ça va être votre dernier choix, dernier conseil, Anastasia Colosimo, mais on commence en musique.
Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел, потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел, и что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады, и со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд, аккорд.
Anastasia, le vol arrêté du poète par Vladimir Vysotsky, et vous, vous tournez vers une poétesse russe, Anna Akhmatova.
Oui, alors bon, déjà, je pense que c'est très important d'offrir de la poésie. C'est très important de lire de la poésie. On en lit de moins en moins. Vous savez, on ne parle jamais, par exemple, de nouvelles publications de poésie, ou très très rarement. Donc je pense que Noël est l'occasion parfaite pour lire familialement, collectivement de la poésie, en offrir, parce qu'il est évident que la philosophie, la littérature, et là je parle des romans, tout ça est formidable, mais c'est bien la poésie qui sauvera le monde. Et vu que c'est la poésie qui sauvera le monde, moi je suggère d'offrir Anna Akhmatova. Anna Akhmatova, c'est une poétesse qui naît en Russie avant la Révolution, dans l'intelligentsia russe. C'est une jeune femme, pas, enfin voilà, une, ce qu'on peut appeler une Russe blanche, un peu de l'aristocratie, qui va traverser la Révolution, qui va fonder le mouvement acméiste et qui très rapidement va être en fait la victime des purges staliniennes. Alors pas directement, son mari va être fusillé, son fils engoulagué, et surtout elle va être dénoncée comme ennemie du peuple. Zhdanov écrira d'elle une nonne ou une putain, ou plutôt à la fois une nonne et une putain qui marie l'indécence à la prière, et en même temps avec ce qui pourrait paraître comme la pire des accusations, il révèle l'immense talent d'Anna Akhmatova, qui est cette part à la fois complètement mystique et complètement érotique, cette espèce de féminité totalement triomphante qui pourrait nous faire penser d'ailleurs à la féminité grecque, et aussi à sa tragédie, puisque tragique elle l'est inévitablement, je vous l'ai dit, son mari est fusillé, son fils engoulagué, et donc elle, il y a un recueil en particulier, Requiem, qui est le recueil qu'elle écrit pendant que son fils est au goulag, et je voulais vous lire les quelques mots qui précèdent ce recueil et qui sont d'Anna Akhmatova elle-même. Dans les années terribles de la Yezhovchina, j'ai passé 17 mois à faire la queue devant les prisons de Leningrad. Un jour, quelqu'un a cru m'y reconnaître. Alors, une femme aux lèvres bleuies par le froid, qui était derrière moi et à qui mon nom ne disait rien, sortit de cette torpeur qui nous était coutumière et me demanda à l'oreille. Là-bas, on ne parlait qu'en chuchotant. « Et ça, vous pouvez le décrire ?» Et je répondis « Oui, je le peux. » Alors, quelque chose comme un sourire glissa sur ce qui avait été jadis un visage. Bon, alors, c'est pas extrêmement festif. Mais c'est magnifique, c'est vraiment sublime. Il y a plein de traductions qui existent. Il y a de très belles éditions, aussi chez Harpo, qui sont en soi de magnifiques objets. Donc voilà, il faut lire et relire Anna Akhmatova.
Et il me reste 10 secondes pour vous proposer à mon tour un livre, ou plutôt un beau livre. Ils sont souvent un peu chers, les beaux livres, donc on vous en parle peu. C'est celui consacré à l'œuvre photographique du japonais Masahisa Fukase. C'est édité magnifiquement bien, mise en page, presque scénographié par les éditions Xavier Barral. Fukase, c'était le photographe de la solitude. C'est lui qui avait capté ses corbeaux par bandes, en nuée ou solitaire. C'est lui aussi qui a photographié son chat dans tous ses états, qui a aussi consacré toute une série à son père, Memories of Father. C'est Simon Baker de la Tate qui nous l'a vraiment fait connaître en Europe et qui le ramène avec lui dans ses bagages maintenant qu'il dirige la maison européenne de la photographie. Voilà, il écrit les textes de ce beau livre avec Tomo Kosuga, le directeur des archives Fukase au Japon. Et c'est paru donc chez Xavier Barral. Un grand merci à vous trois, merci Anastasia Colosimo, merci Christophe Caron et merci cher François Angelier.
C'est une joie.
Merci Mayen Escovic et Henri Leblanc, et à toute l'équipe de La Grande Table, à Oriane Delacroix et Laura Dutèche-Pérez, à Jeanne Copé et à Jordan Joseph, avec qui on a passé ces 4 premiers mois. Très bonne fête à tous. Émission réalisée par Marie Placet et Milena Eilig. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Il y aurait plein de choses à vous dire, mais surtout notez bien que c'est Raphaël Bourgois qui vous retrouvera en direct et aux manettes de La Grande Table toute la semaine prochaine.